Vous écoutez France Culture.
Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on s'intéresse à une maison de paille indestructible. Nicolas Aiguizane, comment est-ce que vous avez eu l'idée, aux éditions de La Lenteur, de publier cet étonnant petit livre ? La maison de paille de Lausanne, qu'on doit à un collectif, le collectif Stroh de la Balle. C'est presque trop beau pour être vrai, un nom de collectif pareil. Vous êtes une maison d'édition plutôt située en France. Comment est-ce que vous avez eu l'idée ou comment est-ce que vous avez rencontré ce collectif lausannois ?
À l'époque, j'habitais à Lausanne, tout simplement. Et je faisais partie du comité de soutien à la maison de paille, qui s'est construit en parallèle avec... la maison de paille en tant que telle, ses habitants et ses constructeurs. Et une fois que la maison de paille avait brûlé, et ben on a décidé de prolonger cette expérience en écrivant un livre de témoignages et de défense de l'expérience de construction de la maison de paille, notamment ce que ça voulait dire en termes d'écologie, d'autoconstruction, d'autonomie, et défendre un peu le projet et l'expérience de la maison de paille.
Alors, on sait donc déjà que cette maison a existé. On sait qu'elle a brûlé. On a déjà tout raconté. André Souter, maintenant, on va revenir peut-être au début. Vous avez fait partie du projet de la maison de paille, non pas côté comité de soutien, mais vous faisiez partie de ceux qui ont eu l'idée, puis qui ont construit cette maison, en plein Lausanne, dans un parc public, visible de très loin.
Oui, c'est-à-dire que nous, on venait des squats, on pourrait dire, de Lausanne. On avait depuis longtemps une démarche d'essayer de se réapproprier nos vies et nos espaces de vie. Et à un certain moment, suite à différentes expériences aussi d'écologie pratique qu'on avait déjà fait, on a eu l'envie de construire une maison de A à Z, autant pour l'expérience, c'est-à-dire d'aller plus loin dans la pratique de l'autoconstruction, et aussi de le faire en pleine ville, avec un aspect démonstratif et pour rencontrer des gens autour de ces questions essentielles pour nous.
Peck, vous étiez aussi dans ce groupe de squatteurs ?
Oui, enfin pas forcément le même, mais on se connaissait de la ville et de ce genre d'activités. Moi je dirais pour ma part, c'est au final le luxe d'avoir pu se réapproprier certaines parties de sa vie par le logement ou la nourriture, comme ça, qui a fait naître cette idée de vouloir peut-être le pousser un peu plus loin, puis aussi comme un délire, comme une idée à réaliser, quoi. Le fait de le faire au centre-ville, ça a des résonances différentes que d'aller à la campagne, par exemple, construire ou comme ça. Après, je dirais, ça aurait été chouette de faire peut-être... quelque chose de plus gros, qui aurait peut-être plus reflété aussi plus le côté collectif qui était hyper important dans la démarche. Et à cause du terrain choisi, des trucs compliqués, de faire ça en ville, en fait, on n'a pas pu faire... Enfin, il fallait être rapide et tout, alors on a choisi un petit truc, mais voilà, ça vient de là.
J'aime bien ce mot de luxe que vous employez.
Disons, c'est une vue de l'esprit, hein, je sais pas. Mais pour moi, c'est un luxe d'avoir le temps de réfléchir à ces questions. Après, ça coûte une certaine forme d'énergie aussi, quoi. Mais c'est un espace qu'on n'a pas forcément dans une vie au travail à 100% ou ce genre de choses. Puis ça, enfin, moi, j'estime que c'est un luxe.
De pouvoir se dire, tiens, si on construisait une maison alors qu'on n'a jamais fait.
Ouais, par exemple, surtout on a passé tellement de temps à rénover des lieux complètement délabrés, c'était aussi comme voir si on pouvait aller plus loin.
André Souter, vous avez participé et à la construction de cette maison de paille et à l'écriture de ce livre. De quelle manière est-ce que ça allait plus loin ?
On parle le fait qu'on a commencé à poser des pilotis sur un terrain et de construire un plancher et de faire construire des murs, c'est-à-dire, mais aussi dans le fait qu'on a dû concevoir une maison depuis la base, sa structure.
Si on commence à raconter vraiment ce qui s'est passé, cette maison, vous l'avez conçue, imaginée entre vous, dans les lieux où vous habitez, mais il fallait la construire dehors, dans ce lieu public, et donc au vu et au su de tous. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que c'était quand même un lieu assez en vue. Et en fait, tout ça, ce sont des contraintes qui ont dessiné la maison aussi.
Oui, on a dû en permanence changer nos plans pour que ça soit réalisable. On est allé pas mal vers une simplification de la maison.
L'idée, c'était la construire assez vite pour pouvoir la fermer et la défendre comme un squat, justement.
Voilà, on a réussi à le faire en une semaine, jusqu'à avoir le toit qui était couvert. Et ça, pour nous, c'était déjà une grande réussite. On ne savait pas si on allait arriver à le faire.
Et de fait, pendant une semaine, il n'y a pas eu de réaction ?
Alors, au bout de quelques heures qu'on construisait le plancher, il y avait des voisins qui avaient appelé la police, qui sont venus, à qui on a réussi à raconter des bobards, qu'on faisait une espèce de piste de danse, et ils ont dit qu'ils allaient en référer à leur supérieur. Et quelques minutes plus tard, on faisait débarquer 200 bottes de paille sur le terrain et on commençait à monter des murs. Et tout ça, après, il y a eu les médias qui sont venus au bout d'un ou deux jours. Et ensuite, les politiciens qui n'ont pas tout de suite compris de quoi il s'agissait, mais en venant voir sur le terrain, ils ont vu que c'était quelque chose d'inhabituel et qu'ils allaient devoir gérer une situation nouvelle. Et donc, ils n'ont pas tout de suite ordonné l'expulsion. Donc, on a réussi à atteindre notre objectif premier, qui était de faire cette enveloppe de maison, avec un soutien très fort qui est arrivé. Donc, ouais, le pari était assez réussi. Ouais.
C'était une vraie maison, Peck.
Disons, c'était un petit espace conçu comme un habitat collectif. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire maison dans l'imaginaire des gens. Mais...
Et dans le vôtre ?
Bah là, c'était un espace qui était le plus ouvert possible avec des minuscules cellules d'habitat, entre guillemets.
Nicolas et Gisèle ?
Ils sont trop modestes. C'était une vraie maison. Évidemment, c'était une maison qui était construite en une semaine, donc elle n'était pas parfaite. Mais toutes les personnes qui sont passées dans la maison étaient très impressionnées. Et là, moi, je tire un chapeau aux Lausannois, parce qu'il y a une pratique politique comme ça, très positive, très effective, où ils ont réussi à faire, sans grand discours peut-être, un peu plus dans le faire et un tout petit peu moins dans le dire. Et ça a provoqué des effets, et des effets politiques très intéressants dans l'équilibre, disons, dans ce qui pouvait se dire et ce qui pouvait se faire dans la ville de Lausanne, notamment par rapport à la municipalité écologiste.
Je pourrais juste ajouter que ce n'est pas une expérience si exceptionnelle que ça. Il y en a d'ailleurs eu en France et qui continue d'avoir lieu, notamment à Dijon, avec la réappropriation de friches maraîchères, etc., où il y a eu aussi des tentatives d'autoconstruction dans différents lieux en France, notamment à Toulouse. Je ne pense pas que ce soit une spécificité suisse.
On va revenir sur tous ces remous politiques que vous évoquez, et puis on va peut-être pas revenir sur la spécificité suisse, en revanche. Mais par contre, moi, j'aimerais que vous nous décriviez cette maison qu'on n'a pas vue. De fait, elle n'est plus là. Elle a été détruite. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et moi, j'aimerais que vous parliez peut-être davantage, d'une part, de la maison telle que vous l'avez dessinée, comme je le disais tout à l'heure, à partir de ses contraintes. Et André Souter était d'accord avec ça. Il disait, oui, effectivement, on a été obligé de la redessiner en permanence. On l'a simplifiée. Mais alors, à quoi est-ce qu'elle ressemblait, finalement ? Et puis, comment était l'état d'esprit du groupe qui faisait cette maison ? Peck ?
comme ça a été dit avant, l'aspect final de la maison, c'est complètement lié à la topographie du terrain. Donc, dans la pente dans laquelle c'est situé, c'était un triangle de verdure au centre-ville, qui est un parc abandonné. Enfin, disons, non praticable, vu la pente et puis le manque d'accès. Du coup, dans ces contraintes-là, il fallait une manière de niveler. Donc, on a fait une maison sur pilotis. Un espace unique rectangulaire, le plus haut qu'on pouvait monter en bottes de paille, en structure autoportante, c'est-à-dire le toit posé sur les bottes et pas sur des piliers. Donc, si je me rappelle bien, on est arrivé jusqu'à 10 bottes, ça devait faire une hauteur de 4,5 mètres, quelque chose comme ça. Et ça nous permettait tout juste de faire une mezzanine au sein de cet espace pour faire des chambres. On avait la chance que le terrain soit incliné en direction du sud, donc on a fait une façade avant sud la plus vitrée possible pour les apports de lumière solaire et puis aussi pour la qualité de vie. Et puis voilà à quoi elle ressemblait. L'ambiance autour du chantier, c'était quelque chose de très frénétique. Ça a été comme une action permanente qui a duré jusqu'à l'incendie, quelques mois.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi la paille, André Souter ?
Alors c'était pour, avant tout pour un aspect pratique de la construction, cette question d'arriver à construire vite. On avait d'abord imaginé faire des caissons préconstruits en bois qui auraient été relativement lourds. Et à un certain moment, on est tombé sur un film qui vantait la construction en bottes de paille, qui disait à quel point elle était en même temps isolante et qu'elle pouvait être porteuse et qu'elle était... des très bonnes qualités au niveau éco-bilan. Dans le film, on voyait le montage en deux jours, je crois, dans un cabanon en paille, filmé en accéléré. Puis là, on a eu un flash, on s'est dit « Ah, c'est ça qu'il nous faut, quoi. » C'est exactement ce qu'on cherchait. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ou les médias ont compris de notre maison, ils ont cru qu'on voulait mettre en avant une technique... faire la promotion de la paille comme technique écologique, alors que pour nous, c'était juste un moyen pour arriver à réaliser une autoconstruction illégale rapidement et démontrer, disons, la possibilité de construire soi-même une maison avec peu de moyens. Alors après, elle avait dans son aspect, elle avait la paille apparente à l'extérieur, donc c'était très visible, la paille, ça avait tout un côté symbolique, où les gens évoquaient alors les trois petits cochons, où je sais pas où ça donnait un côté très rural. Alors du coup, ça devait évoquer quelque chose dans l'imaginaire des gens. Mais pour nous, on n'était pas axé sur une technique particulière.
Vous n'étiez pas axé sur la technique et en même temps, vous aviez un regard sur la technique que je trouve un regard très intéressant. C'est-à-dire, vous avez évoqué le fait que ça vous permettait de travailler vite, de monter la maison rapidement, c'était aussi une technique, je dirais, accessible à tous, ce qui la rend effectivement intéressante. Et ça, c'est quelque chose que vous évoquez. Et puis, c'était aussi une façon d'entrer en lien avec des gens qui n'étaient pas de la ville, la famille de paysannes d'une des participantes, je crois. Donc, c'est, me semble-t-il, un regard un peu décalé sur la technique.
C'est-à-dire que c'est cette idée que la technique ou la technologie, qu'on puisse se l'approprier. Illich qui parle de technique conviviale, c'est-à-dire que l'outil reste en main de ceux qui les utilisent et peut se partager, disons, horizontalement, sans forcément passer par des experts et par des industries qui détiennent des brevets, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que pour des choses aussi essentielles que se loger ou se nourrir ou se soigner, on peut, avec un éventail de techniques conviviales comme ça, imaginer, comme je disais avant, avoir sa vie en main, enfin, garder sa vie en main et au sein d'une communauté qui est... qui peut combiner plusieurs savoir-faire, disons, mais plus proche de l'artisanat que de l'industrie, justement. Voilà, ça permet d'imaginer autre chose que la société capitaliste aujourd'hui, où la technologie est quand même un outil majeur pour asservir les gens. On a plein d'exemples sous les yeux, je pense.
Parmi vous, il n'y avait aucun professionnel de la construction, il n'y avait aucun spécialiste, il n'y avait aucun expert. Ça a été vraiment un travail d'apprentissage collectif et d'ouverture, me semble-t-il, à des mondes nouveaux.
Alors, il y avait quand même une personne qui était dans le collectif de base et une ou deux autres qui ont rejoint un cours de route, qui avaient une formation en architecture, qui nous ont beaucoup aidés, disons, par leur savoir, mais qui n'ont pas été centrales dans la conception de la maison en réalité. Toutes les questions importantes, on se les est posées en tant que profanes, en fait.
Par exemple ?
Ça va de la conception d'une charpente à la portance du terrain par rapport au poids de la maison.
C'est-à-dire qu'en fait, il fallait avancer pas à pas, se poser les questions à chaque étape et trouver les réponses par soi-même.
Voilà, si possible par soi-même, on essaie de trouver les réponses. Et avec l'aide de personnes professionnelles, on les trouvait. Et en général, on finissait par les mettre en œuvre nous-mêmes. Puis ça, c'est quand même très important pour nous dans la démarche d'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas l'utilisation de savoirs pointus développés par des corps de métier, disons, mais, parce que justement, ils sont très utiles et ils sont solides. Mais la démarche de conception et les choix, en fait, qu'on puisse, en tant qu'habitant, se les approprier.
C'est un des aspects que j'ai trouvé intéressant dans le récit que vous faites, donc dans ce livre de cette expérience, c'est cette mesure, je dirais, le fait que, a priori, vous ne recherchez pas nécessairement ou systématiquement les experts auxquels vous en remettez, mais vous ne les refusez pas non plus. De même que les matériaux, on ne l'a peut-être pas assez précisé, sont des matériaux de récupération, sauf quand ça s'avérait trop difficile.
Oui, on a pu récupérer une bonne partie du bois de la construction. Les pilotis étaient des étais utilisés dans la maçonnerie, qu'on a eu de seconde main et tout ça. Mais on a pu constater que si on a beaucoup de temps devant soi, on peut prospecter les matériaux de récupération à disposition et que dès qu'on doit aller vite, on se trouve à acheter pas mal de choses et mettre plus de moyens. Et puis donc, on pourrait dire qu'on avait une sorte de rapport entre la vitesse et les moyens financiers, on pourrait dire.
Autre rapport inattendu, celui que vous établissez entre la vitesse et la hiérarchisation des rôles dans un groupe.
Ça, c'était pendant le chantier où on devait aller vite construire notre enveloppe de maison en une semaine. Il y avait une pression assez importante qu'on s'était mis. Et les gens qui avaient déjà construit dans le domaine du bâtiment, du coup, étaient, disons, relativement utiles et se sentaient très utiles à travailler vite. Alors que dans notre idéal, on essayait que tout le monde puisse participer à la construction. Enfin, tout le monde a pu le faire, disons, mais sur certaines parties de la construction du gros œuvre, des fois, quand il y a des gens qui foncent, qui savent ce qu'ils font et qui ont peut-être des gros bras, etc., c'est plus difficile de s'approcher et de mettre la main à la pâte. Et donc là, il y avait effectivement une répartition des rôles entre spécialistes et non spécialistes qui n'était pas évidente à gérer, finalement.
Alors voilà, en une semaine, cette maison existait sur le terrain et immédiatement, elle a suscité un engouement extraordinaire des médias qui se sont précipités. Elle plaisait beaucoup. Et André Souter soulignait, il y a un moment, qu'il y avait une sorte de malentendu ou même de contresens, qu'on s'était intéressé en particulier à la technique et qu'on avait pensé que vous étiez là pour mettre en avant une technique. On vous a pris aussi pour une bande de joyeux copains sympathiques et bâtisseurs. Peck, vous reconnaissez dans ce portrait ?
Disons, malgré tous les efforts qu'on a pu fournir en direction de notre image médiatique, il faut quand même dire qu'on a été passablement dépassés. Et puis, on avait pas mal de difficultés à gérer en fait ce qui apparaissait dans la presse. Et aussi très vite, ça a été l'objet de tout un tas de pressions politiques qui a en fait dépassé aussi cette histoire à proprement dit, entre la gauche et la droite, enfin ce genre de trucs par rapport aux éditeurs de journaux, qui, enfin voilà. Donc on faisait ce qu'on pouvait pour avoir un minimum de communiqués de presse cohérent, et on faisait ce qu'on pouvait pour gérer la presse sur le moment, mais sinon c'était quand même, ça nous dépassait fortement, surtout qu'on était en fait finalement un groupe de gens trop réduit pour gérer en même temps l'avancée du chantier, en même temps la presse et les dizaines de visiteurs, ou les plusieurs dizaines de visiteurs quotidiens, et en même temps tout l'aspect politique de ce rapport de force qui s'est institué dès le début.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi est-ce que c'était si difficile de gérer tous ces aspects, comme le dit Peck, André Souter?
Il a parlé des dizaines de visiteurs qui venaient chaque jour. C'est aussi un effet positif qu'il y a eu dans ce cas-là de la visibilité médiatique, c'est que ça a fait venir les gens directement sur le terrain.
Ça, on pourrait trouver que c'était un aspect justement très encourageant. C'est que la presse, au départ en tout cas, a été très chaleureuse. Vous a trouvé absolument formidable et il y a eu de la sympathie, du soutien de la part des Lausannois.
Oui. Mais au niveau de la presse, disons qu'ils ont à un certain moment fait un choix, parce qu'il y avait un côté sensationnel de la surprise, de cette irruption inattendue d'une maison écologique. Et à partir d'un certain moment, ils ont fait d'autres calculs en se disant on pourrait attaquer la municipalité de gauche grâce à ce problème, parce que ça a commencé à apparaître comme un problème. Et aussi, au niveau des autorités politiques, ils ont ordonné de démolir la maison. Donc on avait une menace qu'ils l'exécutent par la force avec la police. Donc ça, on essayait d'être réactif par rapport à ça. Et ensuite, ils n'ont pas osé, disons, nous expulser en voyant qu'on avait eu du succès. Et ils ont commencé à entamer des négociations. Ils ont proposé des négociations, donc ça a pris pas mal d'énergie aussi.
Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. Quatre carreaux pour le ciel, une cheminée pour Noël. À gauche un pommier pour la tarte, à droite un voilier pour qu'on parte. Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison.
Donc on va revenir un petit peu sur tout ça, puisque ce que vous dites, c'est que vous avez été instrumentalisé par la presse. Vous avez servi des intérêts qui n'étaient absolument pas les vôtres et qui ne vous regardaient pas, d'une certaine manière. Mais peut-être ce qu'il faut préciser, c'est quelle a été l'attitude de la classe politique, d'une manière générale. Alors Lausanne, c'est une municipalité rose-rouge-vert, ou en tout cas c'était ça à l'époque. Et vous nous dites, André Souter, qu'ils vous ont demandé de détruire la maison, mais on parlait de mouvements de sympathie, d'une vision plutôt positive de la maison. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Pour illustrer ce qui s'est passé, je pourrais parler dans le téléphone qu'on a eu très rapidement avec un des chefs de file du Parti Vert à Lausanne, qui tout de suite a commencé à nous lire la loi sur l'aménagement du territoire pour nous expliquer que ce qu'on faisait était illégal. Et ensuite, il nous a expliqué que eux, les Verts qui se battent contre les promoteurs sans scrupules qui construisent n'importe où, ne pourrait pas soutenir le fait que nous, on construise n'importe où, même si apparemment c'est écologique. Donc ils ont un côté très légaliste et qu'on retrouve dans toute la classe politique, même si ensuite il y a eu, disons, des divisions internes, disons, entre...
au sein d'un même parti ?
Oui, au sein d'un même parti. Avec...
Mais vous, qu'est-ce que vous répondiez à ces discours légalistes ?
Eh bien, un peu ce qu'on a dit dans notre premier communiqué, c'est que comme la, ce qu'on appelle la crise écologique n'est pas en train de se résorber, mais de s'empirer, malgré tous les beaux discours, malgré la prise de conscience dont on nous parle, on a affirmé qu'on ne pensait pas qu'on allait résoudre les problèmes en respectant les règles dans le cadre du système qui a amené cette dévastation et que maintenant il fallait faire autrement et puis qu'il fallait provoquer quelque chose de différent. Voilà, en gros.
Donc on vous a demandé de quitter les lieux, c'est ça ?
Oui, tout de suite, en fait, il s'est agi dès la première réunion de la municipalité, qui est l'organe exécutif d'une ville en Suisse. Dès leur première réunion, ils ont ordonné le démontage d'abord, puis après la destruction, au fur et à mesure des jours. Et puis ça, là a commencé un peu le rapport de force qui est passé par différentes phases, notamment juridique aussi. À un certain moment, on a pu faire un recours, mais on s'est vite aperçu qu'en utilisant justement les armes du système qui nous attaquait, on perdait légitimité de critique, enfin à différents niveaux. Mais malgré tout, en maintenant la pression, il n'y a qu'avec l'incendie, plusieurs mois plus tard, qu'on a pu être évacué, entre guillemets.
Avant ça, on avait essayé de vous amadouer. On vous avait proposé un autre terrain. Il y a eu toutes sortes d'épisodes, en fait, André Souterre.
C'est-à-dire que les membres de la municipalité, notamment le syndic vert Daniel Brella, ont essayé, disons surtout médiatiquement d'abord, de dire s'ils acceptent de quitter cette maison, nous leur proposerons un terrain de remplacement où ils pourront refaire leur expérience et tout.
Mais à quoi bon ?
Voilà, c'est ce qu'on leur a dit. C'est que nous, on avait construit une maison pour y habiter et qu'on avait la ferme intention d'y habiter. Et que ce n'était pas quelque chose qui se déplace. Après, ils ont un peu fait monter les enchères en disant « Oui, mais des terrains, on en a vraiment, on y pense sérieusement. Si vous nous faites un projet, on va pouvoir discuter. » Alors là, à certains moments, on s'est dit qu'on allait les prendre au mot, qu'on allait leur dire, en disant en avant-projet de maison, en disant voilà, si on voulait loger 15 à 20 personnes, on ferait une maison de telle dimension, avec telle puissance de chauffage pour arriver à la chauffer, et plein de choses comme ça, avec dans des séances de négociation qui étaient un peu houleuses, où en même temps ils essayaient de nous discréditer, et en même temps ils nous tendaient la carotte aussi avec ce projet. Donc là, on est rentré un peu dans le jeu. Mais en restant ferme, évidemment, sur le fait qu'on n'allait pas quitter la maison d'abord, c'est-à-dire lâcher ce qu'on avait en main.
Parce que ce qu'on vous demandait, c'était ça, c'était partez et on vous retrouvera autre chose après.
Voilà, je pense que c'est un cas typique, un cas de conflit. Comme quand il y a des grèves, on dit d'abord retournez au travail, ensuite on discute. Quoi. C'était un peu ça, quoi, genre lâchez votre os et ensuite, peut-être, mais on n'était pas dupes, quoi.
Il y a quelque chose qui, apparemment, était particulièrement dérangeant pour les autorités, c'était le fait que vous insistiez pour habiter. C'est-à-dire qu'à la limite, ça aurait peut-être été possible de construire cette maison juste pour la faire visiter, mais le fait d'y habiter, ça, c'était pas tolérable ?
Non, c'était un affront de plus à la légalité, disons, dans leur... Dans les arguments qu'ils avançaient, c'est qu'il faut non seulement un permis de construire, mais aussi un permis d'habiter pour vivre dans une maison. Après, c'était aussi, probablement, ça les embêtait encore plus comme situation d'avoir un nouveau type de squat qui est admis et qui ouvre une brèche dans les pratiques et tout ça, et puis que c'était inacceptable. Il y avait aussi les arguments qui arrivaient à dire « Oui, mais alors dans ce cas, on peut admettre de faire des bidonvilles. » et on abandonne toute la qualité de vie qui est permise grâce aux normes légales, etc. Alors, il fallait se défendre aussi sur ce terrain-là, de dire non, mais ce qu'on fait, c'est pas n'importe quoi. Et la démarche d'habiter, c'est-à-dire pas juste demander par exemple des logements subventionnés, mais se construire une maison soi-même, c'est une démarche politique importante et donc la défendre.
La différence, c'est ce que vous faites entre un logement et une habitation.
Un logement, voilà, comme de nouveau, je cite de nouveau Illich, c'est pouvoir revendiquer un certain nombre de mètres carrés dans l'espace construit, qui est un espace fabriqué par des spécialistes, des professionnels, etc., et dans lequel on est dépossédé, où tout changement qu'on fait est considéré comme un accroc, comme un signe d'usure, alors que la démarche d'habiter, c'est définir soi-même ses espaces, c'est aussi...
faire ses propres traces.
Oui, voilà. Faire ses propres traces, faire ses propres choix, avoir une autonomie, aussi une autonomie politique, de ne pas être tout le temps dans le revendiquer à l'État de fournir des services.
Alors là, justement, on revient à la technique. Vous aviez fait le choix d'installer une phytoépuration pour les eaux usées, pour ne pas avoir justement à recourir aux services de l'État, et vous aviez fait le choix d'avoir des toilettes sèches. Donc là aussi, une autonomie par rapport aux services habituellement prodigués par une ville ou par une commune.
Oui, pour nous, c'était important. Ça avait cette double dimension de cohérence écologique, de ne pas produire de déchets et de créer de la fertilité à partir de ce qui est habituellement considéré comme des déchets. Et aussi cette dimension d'autonomie dans le cadre d'une occupation d'un terrain pour pouvoir affirmer qu'on a squatté ce terrain pour prendre nos affaires en main. C'est pas pour, en même temps, directement demander, et puis on aimerait le raccordement à l'eau potable, aux égouts, à l'électricité et au téléphone et au câble optique. Voilà. Ça donnait aussi une posture plus cohérente à ce niveau-là et ça soutenait notre discours.
Peck ?
Par rapport à l'épuration des eaux ou tout ça, je voudrais dire, c'est clairement pas une démarche qui est contre une approche collective de la gestion de ce phénomène. C'est plutôt aussi par rapport à comment sont gérées ces choses qui sont finalement des services qui, à l'heure actuelle, des privatisations et tout, doivent être des entreprises rentables et qui, en fait, donc ça a aussi son impact sur comment c'est géré et tout ça. Donc évidemment, il y a des grandes questions par rapport à comment gérer les épurations de villes entières qui existent déjà, etc. Et puis... ça nous a souvent été critiqué de se soustraire à ces questions, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est, là aussi, c'était en partie des solutions concrètes par rapport au terrain, comme il se présentait, tout ça.
Mais effectivement, oui, Nicolas Aiguzane, c'est sur cette question des critiques développement durable qui ont été faites que vous vouliez intervenir là.
C'est vraiment parce que cette question de phytoépuration, ça a vraiment énervé les gens de la municipalité. Et je ne sais plus qui a dit, oui, alors ces gens-là, c'est des gens qui font pipi-caca sur le terrain. Et il y avait, dans cet aspect, il y avait à la fois une incompréhension de la démarche de la maison de paille et un côté mépris. Et en fait, pour moi, c'était très représentatif, très révélateur de l'idée que l'écologie, c'est nous, la municipalité, qui nous en chargeons. Vous pouvez voter vert, vous pouvez trier vos déchets, mais surtout, n'allez pas jusqu'à prendre en main directement les choses. Ne faites pas l'écologie directement avec vos valeurs, avec vos règles à vous. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait évidemment n'importe quoi si on fait des choses disons, qui ne sont pas forcément dans le cadre légal. Et il y a eu cette même incompréhension, ce même étonnement, quand au téléphone, ou je ne sais plus quand, on a dit « mais cette maison, vous ne comptez quand même pas y habiter ». Si, si, on compte y habiter, bien sûr. On fait une maison pour dormir dedans. Là, il y a eu vraiment deux mondes qui s'affrontaient, deux conceptions de l'écologie, je pense, et qui s'affrontent jusqu'au conflit, hein, c'est-à-dire jusqu'à à vouloir évacuer, jusqu'à un incendie un peu mystérieux. Et je pense que ça, c'est révélateur de ce qui risque d'arriver dans les années qui viennent. Deux écologies, une écologie un peu autonome et une écologie d'État. Ça, c'était pour moi un enseignement de cette histoire de maison de paille.
Un petit peu de bois dans le poêle.
Oui, ça rajoutera de l'ambiance dans l'émission radio.
Cette notion d'une écologie d'État et d'une écologie autonome, c'est quelque chose dont vous avez beaucoup discuté entre vous, effectivement.
Ben, en tout cas, pour nous, ça nous tient vraiment à cœur de faire cette distinction, parce qu'on on voit bien d'une part que l'écologie d'État sert souvent de prétexte à faire des grandes réalisations.
Qu'est-ce que vous appelez l'écologie d'État, en fait ?
C'est l'écologie capitaliste, disons.
Oui, mais des exemples concrets ?
Ben, par exemple, les énormes parcs éoliens offshore au Danemark, d'ailleurs, on voit dans la direction que prennent, il n'y a que les énergies renouvelables à haute technologie qui, en fait, sont valorisées, par exemple.
Ou bien ici, localement, à Lausanne, c'est par exemple construire un métro souterrain absurde pour une ville comme Lausanne, qui va coûter 1 milliard de francs suisses et qui va être présenté comme une solution écologique au problème du trafic automobile, alors que finalement ça ne fait que soutenir la croissance ne rien résoudre du tout, mais servir à cette légitimité de l'État qui doit constamment renouveler en disant voilà, nous vous protégeons du désastre environnemental par nos grandes réalisations, comme par exemple nos incinérateurs à ordures, nos autoroutes. On va dire, on arrive à prétendre qu'on fait des autoroutes écologiques aujourd'hui ou des métros. Enfin, pour nous, tout ça revient au même, dans le sens que c'est une manière de continuer sur la voie capitaliste du développement économique.
Peut-être aussi sur la voie de la dépossession, parce que ce que vous décrivez là, c'est un État qui demanderait qu'on s'en remette à lui et qui agirait en lieu et place de tout un chacun.
Il me semble que c'est le fondement de l'État, non? Ça naît probablement d'une nécessité de s'organiser et ça devient un État à un moment de cette manière-là, en prenant le pouvoir sur la prise de décision.
Et donc, est-ce que vous appelleriez une écologie autonome à ce moment-là?
Nous, on a pris un peu au pied de la lettre le terme d'écologie en disant que c'était l'étude de l'habitat et que ça devait commencer par toucher les questions de la vie quotidienne dans laquelle on habite. Qui décide de nos vies? Qui est-ce qui définit quelles sont nos ressources? Et donc, une écologie autonome, ça serait une manière, j'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais de prendre ces choses en main.
Nicolas ?
C'est une prise en charge directe des aspects les plus importants de la vie quotidienne. Et le logement en est un. On peut parler du transport, on peut parler de la nourriture, on peut parler de l'éducation. Voilà, déjà de la culture. Donc voilà, c'est une prise en charge directe avec une discussion directe des problèmes que ça pose et des contradictions dans lesquelles on va forcément se trouver. Qu'est-ce que ça veut dire un transport autonome dans un espace, une géographie qui est déjà façonné par l'urbanisme moderne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, des vélos, de la fraude au transport public, il y a plein de systèmes, pareil pour la nourriture. Donc, ouais, c'est moi ce que j'appellerais autonome. Et c'est sûr, c'est une conquête à la fois individuelle et collective. On propose des solutions collectives de dignité. Je pense que ça, c'est important. On a vu le mépris qu'il y avait eu de la part des élites, ce genre de choses. C'est une reconquête, dans ce côté-là, c'est une reconquête de la dignité. Alors, je pense que ça, c'est un aspect important. Parce que de la même manière, on nous dit surtout ne faites rien d'important. Ça, c'est nous qui nous en chargeons, par les lois, par les experts. On va vous dire ce qu'il faut faire au niveau. Par contre, en tant qu'individu dépossédé, là, on est écrasé de responsabilité. C'est-à-dire, si la planète va mal, c'est parce que vous ne triez pas vos déchets. Attention, il faut manger ci, il faut manger ça. Et donc, on est tout le temps convoqué en tant que culpabilisé en tant qu'individu. Et ça, il faut absolument rompre cette contradiction qui est insupportable et dire à la fois, bon, ok, on ne peut pas tout faire parfaitement parce que la situation est mauvaise, donc on prend en charge certaines contradictions, et d'un autre côté, eh ben, on se réapproprie les questions importantes et les termes, un peu les termes du débat.
André.
Oui, Nicolas a fait une allusion un peu à l'urbanisme. C'est une chose qu'on a essayé de dire dans le livre aussi, c'est que dans une vie quotidienne, on est éclaté entre des espaces séparés comme le lieu de travail, le supermarché, le logement, les loisirs. C'est logique, c'est structurellement assez logique qu'on consomme énormément d'énergie et toutes sortes de ressources et qu'on pense qu'il faut avoir un certain rapport au territoire pour avoir une vie collective réellement écologique où tout n'est pas séparé, où tout n'est pas vendu comme un produit, comme on achèterait du logement, comme on achète des soins, comme on achète des loisirs. Tout ça, donc le fait d'articuler ces aspects de la vie quotidienne différemment, tendanciellement en les rapprochant plutôt, ça donne de la cohérence à l'idée d'écologie pour nous.
Cette idée-là, c'est en ville ou c'est dans des lieux plus reculés, dans des campagnes? Ce rapprochement, comment est-ce que vous imaginez ça? Parce qu'en même temps, dans le livre, vous revendiquez le fait d'avoir choisi de rester en ville.
Bon, pour nous, c'est lié au fait qu'on est des habitants de la ville, c'est-à-dire que c'est là qu'on est implanté socialement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ville, malgré que, disons, une des choses essentielles qui est très difficile à faire, c'est produire la nourriture, par exemple. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière intéressante au niveau écologique. Tout ce qu'on peut aussi se réapproprier d'espaces de production, les ateliers ou des choses comme ça, qui peuvent être liés dans des quartiers à de l'habitation. Et si je pense à ce qui a été développé théoriquement et pratiquement dans le courant de la permaculture, il y a tout un courant de permaculture urbaine qui a esquissé aussi des pratiques urbaines d'autonomisation quand même. Qui effectivement, les réalisations qui sont les plus connues, qui vont le plus loin, disons, sont à la campagne, souvent dans des lieux qui ont beaucoup subi l'exode rural et où le terrain n'est pas cher et que c'est là que beaucoup de gens ont pu mener des expériences collectives assez poussées. Mais en fait, c'est sûr que des mégapoles posent des problèmes insolubles, c'est sûr, mais quand on parle d'urbain, on peut aussi parler de choses à dimension plus viable, en fait.
Et vous dites aussi une phrase que j'ai trouvée intéressante sur le fait que, contrairement en effet à ceux qui avaient fait le choix de partir s'exiler à la campagne pour essayer de créer des univers un peu en dehors du monde dans lequel on est, vous avez fait le choix de rester dans la ville et de vouloir vivre les contraintes et les difficultés, mais sans passer par le fait de devoir vendre sa force de travail, de devoir...
La ville, c'est aussi une concentration de pouvoir, du coup c'est un lieu intéressant pour le remettre en question. C'était aussi simplement ça. Aller se construire une maison à la campagne, ça n'a rien d'exceptionnel. Après, les tentatives d'habitat collectif et peut-être de construction de choses un peu différentes, c'est déjà un énorme pas en avant. Mais nous, on était là. On y est encore d'ailleurs et c'est aussi un endroit intéressant pour remettre en question ce qui se passe vu que tout le pouvoir se concentre en ville. C'est là que les décisions se prennent pour la campagne.
Le jour du démarrage de la construction, c'était le 24 août 2007. La maison a brûlé dans la nuit du 21 décembre 2007, 4 mois plus tard. En pleine nuit, le feu a pris. Un accident, André Souter, c'est ce qui a été dit.
C'est effectivement la thèse officielle qui a été émise dès les premières heures après l'incendie, où la police judiciaire s'est saisie de la première hypothèse qui les a bien arrangés, c'est qu'il y avait un poêle à bois dans la maison, que certainement ça ne devait pas être aux normes, alors probablement que c'était un incendie involontaire dû à l'irresponsabilité des habitants. Et directement, cette hypothèse a été relayée à la radio, dans les médias. Et au bout de quelques jours, le syndic de la ville a utilisé ça pour nous discréditer, nous insulter, en disant voilà, qu'on était des fumistes. Voilà. Et du même coup, abandonner ses belles promesses de nous trouver un autre terrain, évidemment, vu que la maison avait disparu. Quant à nous, on a mis un petit moment à retrouver nos esprits après le choc de l'incendie et à commencer à arriver à réfléchir sur ce qui avait dû se passer, qui était clairement pas le poêle qui avait mis le feu à la maison. Les gens qui sont sortis de la maison en urgence ont bien vu que le poêle, que ça ne brûlait pas autour du poêle, que des flammes venaient d'ailleurs, de l'extérieur. Et ensuite, on a pu voir sur les décombres de la maison des indices comme une poutre qui avait brûlé davantage, qui selon nous est le signe qu'elle avait commencé à brûler en premier et qui se trouvait à l'opposé de la position du poêle à bois. Donc, et qui c'était cohérent avec là où on avait vu les flammes en premier, qui était aussi un endroit qui était facilement accessible de l'extérieur, d'où on pouvait s'enfuir discrètement si on était en pyromane, on va dire. Donc ça, on a dû le défendre ensuite publiquement pour étayer la thèse de l'incendie volontaire.
Parce que l'enquête de police, elle, a conclu à l'accident.
Au départ, il n'y a pas eu d'enquête, en fait, pratiquement. Il y a eu un juge d'instruction qui a décidé le premier jour de donner une forme sommaire à l'enquête, tellement ça lui semblait évident. Ensuite, en faisant un petit peu de foin dans les médias, ça l'a poussé à faire semblant d'enquêter. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, il a envoyé des experts de la police scientifique rechercher des traces de combustible. Alors que nous-mêmes avions mandaté une analyse qui avait déjà trouvé des indices assez probants de présence d'essence à l'endroit où on pense que le feu a pris. Et les experts n'ont rien trouvé. L'enquête ensuite s'est un peu éteinte pendant 2 ans. Et tout d'un coup, le juge a clos l'enquête en disant... C'était très probablement un accident dû au poêle à bois. Et les médias ont enlevé le très probablement, ont titré « L'incendie était accidentel ». Et voilà, au niveau public, c'est ça qui est ressorti. Nous, c'était un début du livre de développer en fait notre version des faits. Aussi pour soutenir l'avis d'une bonne partie de la population lausannoise qui a trouvé très suspect cet incendie. Le moment où il est arrivé, à un moment où les négociations étaient dans l'impasse, où les autorités essayaient de nous mettre des ultimatums, où tout le monde a bien vu en fait que ça les a bien arrangés qu'il y a eu un incendie. Alors les soupçons couverts, disons, de un large éventail de possibilités. Pour notre part, on peut dire qu'on ne saura jamais qui a mis le feu, mais qu'on pense que c'était un incendie volontaire motivé politiquement.
Après cet incendie, la municipalité a voulu vous faire payer le dégagement du terrain.
Ça, c'était une interpellation de l'extrême droite au Parlement qui disait « Mais qui va payer les dégâts causés par ces irresponsables etc. ?» Et la municipalité a répondu « Les responsables devront payer ». Sans s'avancer sur qui étaient les responsables, parce qu'il y avait une enquête qui était censée déterminer qui c'était.
Ah, donc c'était pas vous.
Donc voilà, donc on n'avait pas à payer. Non, de fait, on a aussi choisi de prendre les devants et de déblayer nous-mêmes les décombres. D'une part, pour ne pas leur donner encore plus de grains à moudre et de dire qu'il y avait effectivement des coûts importants... et tout ça, mais aussi pour démontrer de manière cohérente que on avait construit une maison qui était complètement, dont l'implantation était complètement réversible. En enlevant les pilotis, il restait plus aucun impact sur le terrain, contrairement à toute la construction qui se fait en béton actuellement. Voilà, c'était en même temps tactique et politique, on pourrait dire.
C'est une histoire terminée ? Il n'y a plus de traces ?
Alors. Il y a eu plusieurs épisodes ensuite encore où les autorités lausannoises ont décidé ensuite de faire place nette, c'est-à-dire qu'on avait réaménagé le terrain à notre façon pour pouvoir y mener encore d'autres activités après la destruction de la maison. Alors ils ont dit que ça n'allait pas du tout, évidemment, que c'était insalubre et dangereux, enfin toute la panoplie. En plus, on a essayé de reconstruire quelque chose de plus modeste pour faire une petite buvette avec la technique des murs en pisé, ce qui a été interrompu dès le premier jour par la police de manière violente. Et suite à ça, les autorités ont dit que même le jardin potager qui était préexistant avant la maison devait disparaître aussi. Et ils ont amené une pelle mécanique, tout rasé, abattu les arbres, légèrement touché par l'incendie. Comme ça, en plus, ça dégageait la vue pour qu'on puisse plus faire des choses discrètement et tout ça. Donc, ils ont eu une démarche de reprise de contrôle sur le terrain. Voilà. Ensuite, les activités, que ce soit de jardinage ou autre, ou ont repris la place plus tard, quand les choses s'étaient calmées, on va dire.
Et les maisons de paille ?
Les maisons de paille, elles se portent bien. C'est-à-dire la technique a trouvé un certain écho. Elle le trouvait par d'autres moyens aussi, disons. Mais disons que dans la région de la Suisse romande, ça a aidé un certain essor de cette méthode de construction. Mais avec toute une dimension aussi de récupération politique au niveau de la commune de Lausanne, qui pour se redonner une bonne image, pour pouvoir dire non, mais on n'était pas contre ce qu'ils ont fait, c'est juste la manière dont ils l'ont fait. Ils ont commandité la construction de bureaux administratifs avec des bottes de paille et en mur en pisé même, mis en scène comme une construction exemplaire de cette municipalité écologiste. Donc voilà, un bel exemple de récupération politique. Voilà.
Cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez toutes les informations pour commander et lire ce livre aux éditions de La Lenteur. Vous y retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Jean-Richard Dufour, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.